Le débat africain. Alain Foucault.
Bonjour Niamey. Est-ce que vous êtes là?
Oui.
Est-ce que vous êtes là? On ne vous entend pas.
Oui.
Merci d'être là. Nous sommes à Niamey. Comment t'expliquer qu'un jeune puisse égorger son propre père au nom d'une cause? Comment t'expliquer qu'un adolescent puisse prendre les armes contre les siens au nom, selon lui, d'une religion? Comment t'expliquer qu'une bande de jeunes puisse rentrer dans une mosquée à l'heure de la prière pour massacrer leurs co-religionnaires? Qu'est-ce qui peut expliquer ces actes fous? Et si on posait la question directement à la jeunesse, de nous dire ce qu'elle pense de cette forme de violence, de ces enrôlements de plus en plus nombreux dans des mouvements terroristes? Bonjour à tous. Et bienvenue dans le débat africain, enregistré ce dimanche à Niamey, au centre culturel Oumarou Ganda, devant un public composé à la fois des jeunes et de la société civile. Un public particulièrement chaud, comme vous pouvez l'entendre. Merci. Plusieurs invités dans le même temps sur ce plateau. D'abord, M. Assoumana Malamissa, le ministre de la Renaissance culturelle, des Arts et de la Modernisation sociale. Bonjour, Monsieur le ministre.
Bonjour.
Je vois que vous êtes venu avec vos militants. Second invité de ce plateau, Abdourahmane Seydou, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, membre du parti de l'opposition Modem Faloumana. Vous aussi, vous avez amené vos militants. Bonjour, monsieur le ministre. On est presque en meeting ici. Notre troisième invité est Farouk Adamou Gao, membre fondateur de l'ONG SOS Civisme Niger. Bonjour, monsieur Gao. La jeunesse est représentée sur ce plateau d'abord par mademoiselle Kadiatou Idiani, étudiante en licence de droit privé à l'université Abdou Mouni de Niamey. Et à ses côtés, Mahamadou Ider Al-Gabi, le secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Bonjour, monsieur Ider Al-Gabi. Alors, on va commencer en posant directement la question à Kadiatou qui est ici. À l'université ou dans la vie de tous les jours, avez-vous rencontré des jeunes qui vous ont dit pourquoi ils suivaient ces personnes qui les amenaient à devenir des assassins?
Ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'à l'université, je ne pourrais pas rencontrer ces jeunes-là, parce que ce ne sont pas les étudiants, les terroristes, si on peut le dire. Et ces jeunes-là, si vous essayez de comprendre qu'est-ce qui les conduit à ça, je pourrais dire que c'est l'injustice sociale, la frustration qui peut émaner non seulement de la société, mais aussi de nos autorités. Arrêtez de... Quand la frustration atteint un certain niveau, on ne pense plus aux conséquences de nos actes, mais on veut s'affirmer à travers quelque chose.
Oui, mais est-ce que vous pouvez comprendre quelqu'un qui, malgré la frustration que vous décrivez, décide un jour d'égorger son père parce qu'il ne croit pas de la même façon que lui? Est-ce que ça peut se justifier?
Ça ne peut pas se justifier, mais on ne peut pas. Moi, personnellement, je ne peux pas non plus les condamner parce que les personnes, les gens ne réagissent pas de la même façon face aux événements, face aux frustrations vécues. Il n'y a pas de raison pour assassiner, mais essayons aussi de comprendre les causes réelles, ce qui pousse ces jeunes-là à agir comme ça au lieu de ne pas tout de suite les condamner, mais essayons de trouver les vrais problèmes que les jeunes vivent au quotidien qui peut les pousser à être vraiment des assassins, si on peut le dire, des terroristes.
Même si on peut comprendre qu'il puisse y avoir des frustrations, M. Hider, est-ce que vous pouvez justifier cet acte fou, quelles que soient les raisons?
Le terrorisme aujourd'hui constitue l'un des facteurs qui est brandi, un prétexte aujourd'hui qui est brandi pour justifier l'abandon de l'école nigérienne. Et je vous remercie pertinemment d'avoir pris cette thématique aujourd'hui pour qu'elle soit en débat. Et comme vous l'avez dit dans votre introduction, moi je ne prends pas le terrorisme comme étant une cause, mais je suppose que M. Alain Foucault, le terrorisme est une conséquence. Elle n'est pas une cause. Le terrorisme est la conséquence de la mauvaise gouvernance de nos États. Le terrorisme, ces jeunes aujourd'hui qui constituent aujourd'hui les réservoirs de ces groupes terroristes, quelle que soit la revendication portée par ces derniers, quelle que soit l'idéologie qui est portée par ces derniers, quitte aujourd'hui à l'opinion internationale d'appréhender le terrorisme comme étant une conséquence et une cause. Ne soyons pas aujourd'hui sur ces plateaux de savoir ou d'ébranler les causes fondamentales du terrorisme, mais étudions les conséquences qui ont aujourd'hui accouché ce terrorisme. Le terrorisme a existé depuis l'Antiquité, en passant par la période contemporaine. Qu'est-ce qui avait véritablement marqué toutes ces étapes? Qu'est-ce qui amène ces jeunes, qu'ils soient étudiant, qu'il soit nigérien ou pas, qu'il soit de la sous-région, à embrasser, à prendre des armes et à dire non. Voilà ce qu'il faut aujourd'hui étudier pour.
Oui, je veux bien que ce soit des conséquences. Je veux bien que ce soit des conséquences de la malgouvernance. Mais est-ce que vous pouvez accepter que l'on puisse assassiner au nom d'une religion? Parce que ceux-là parlent souvent de religion. Est-ce qu'ils ne sont pas les principaux adversaires même de cette religion?
Monsieur Alain Foucault, vous parlez de religion. Aujourd'hui, je vous parle des différents groupes terroristes qui sont présents en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Dans le Sahel, Akemi, Minjao, Ansardine, et l'État islamique au Grand Sahara. Ce groupe aujourd'hui recrute qui? Qui constitue le réservoir d'énergie de ce groupe terroriste? Ce sont ces jeunes. Ces jeunes qui ont fini leur formation, qui n'ont pas d'emploi. Ce sont ces milliers d'élèves qui ont été exclus pendant leur cycle, qui n'ont pas fini leur cursus académique. Ce sont ces frustrés. Et ce sont ces gens qui estiment être aujourd'hui abandonnés, qui pensent être dans des zones où il n'y a ni école, ni case de santé. Ce sont ces derniers aujourd'hui qui constituent un réservoir de ces groupes terroristes. Donc je pense que pour toucher du bout du doigt cette question, il est fondamental, M. Alain Foucault, de toucher le problème à sa racine qui constitue la mauvaise gouvernance de nos États, le népotisme, le chômage, la corruption et toutes les contre-valeurs.
Alors là, la pierre est jetée dans votre jardin, monsieur le ministre Ansoumane. Lorsque vous écoutez ça, vous appartenez au gouvernement aujourd'hui. Qu'avez-vous envie de répondre à ces jeunes-là qui disent que c'est plutôt une conséquence qu'une cause? La cause serait celle du gouvernement qui ne fait pas son travail.
Bonjour. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous féliciter RFI pour cette ingénieuse idée de penser au Niger, de penser à Niamey et d'organiser ces rencontres combien importantes. Il n'aurait peut-être pas fallu que RFI soit là pour que opposition et majorité, on se retrouve discuter de la vie des Nigériens, mais tant mieux que ça commence et plus tard on peut se retrouver, c'est possible. Alors, quand on entend...
S'il vous plaît, laissez parler monsieur le ministre.
Alors, lorsqu'on entend ces jeunes parler, M. Foucault, on ne peut pas nier quelque part que c'est des graines de vérité dans ce qu'ils ont dit. Ce qui se passe dans le lac Tchad, ce qui se passe à l'ouest du Niger, dans la partie nord du département de la région de Tillabéri, de Tawa, ce sont des choses qui n'ont pas simplement une seule raison, qui n'ont pas un seul, je dirais, justificatif. La mauvaise gouvernance, on peut la qualifier comme on veut, mais effectivement, ce sont souvent les conséquences des différentes politiques qu'on a mises en œuvre dans notre pays depuis des années. Et aujourd'hui, les conséquences-là sont malheureusement aggravées par des phénomènes, qu'on le veuille ou pas, qui ont des liens avec la religion. Moi, je pense, et je l'ai dit, on le dit assez souvent à des rencontres, que la mauvaise compréhension de la religion a eu un effet sur l'obscurantisme, sur le terrorisme, parce que lorsqu'on arrive à vous convaincre, qu'en vous faisant exploser avec une ceinture que vous allez au paradis, lorsqu'on arrive à vous convaincre, qu'en vous faisant exploser ou en tuant votre papa, vous allez aller au paradis, je pense que, et que vous voyez, vous le faites dans des mosquées et non dans des endroits qui n'ont rien à voir avec la religion, je pense que ceux qui ne sont pas encore morts pouvaient se poser des questions. Est-ce que véritablement c'est la religion? Et je pense qu'il y a des témoignages que nous avons tous suivis. Un jeune qui dit que ceux qui le font faire ces choses ne prient même pas. Donc c'est une autre raison qui est là. Et nous avons estimé qu'on doit faire comme dans les pays côtiers, parce que peut-être ils sont en minorité, les musulmans des pays côtiers connaissent mieux leur religion que nous-mêmes. Je suis fils de musulmans, nous sommes tous des musulmans, mais nous ne connaissons pas notre religion. Et c'est pour cela qu'avec des arguments fallacieux qui n'ont rien à voir avec la religion, on vient, on nous embobine et nous faisons ces choses. Troisième raison qu'on peut évoquer, il y a la question de la pauvreté aussi. La question de la pauvreté, c'est lié au fait que lorsque vous êtes là, vous n'arrivez pas à avoir un salaire de 5 000 et que quelqu'un vienne vous faire une proposition de 500 000 et d'une moto, il y a une tentation qui est née et cette tentation a fait que beaucoup de gens se sont laissés enrôler. Je pense que ce sont des raisons objectives qu'il ne faut pas se cacher. Les politiques qu'on a mises en place, que ce soit par nous qui sommes là depuis 2010, que ce soit par d'autres qui ont gouverné avant nous, sont des politiques qui ont eu des conséquences parce que le système éducatif tel qu'il est là, c'est un système qui n'a pas produit, malheureusement, qui n'a pas produit depuis sa mise en œuvre, qui n'a pas produit des intellectuels bien formés. Un système qui est là où l'adéquation entre la formation et l'emploi n'est pas toujours trouvée, mais les gouvernants font leurs efforts dans la création d'emplois. Nous sommes en train de faire notre effort.
Lorsqu'on écoute, monsieur le ministre, je vais vous interrompre puisqu'on doit partager le temps de parole. Il est souvent question de mauvaise gouvernance, de mal gouvernance. Là, vous avez parlé de la religion. On va évoquer l'aspect religion juste après. Est-ce que vous avez le sentiment que ça peut se justifier par la malgouvernance, M. Seydou? Vous avez été ministre, vous aussi.
Moi, je voudrais quand même aller au-delà de la simple malgouvernance. Avec ce que nous constatons aujourd'hui sur le plan du terrorisme, de la rébellion, le moment est venu pour que nous arrêtions, nous, Africains, pour nous poser la question de savoir et pourquoi tout cela. Nous sommes de ceux qui sont convaincus que l'Afrique, ce n'est qu'un terrain qui a été choisi pour faire évoluer une certaine vision, pour atteindre des objectifs, disons, non avoués.
Quand vous dites qu'on a choisi, qui a choisi l'Afrique pour ça?
Donc, je voudrais dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez un pays comme le Niger, le Burkina Faso, le Mali, et plus loin encore, qu'est-ce que nous nous reprochons pour vivre aujourd'hui, disons, toute cette insécurité, pour vivre aujourd'hui tout ce dérangement? De notre point de vue, le terrorisme est un phénomène mondial avec des objectifs précis et c'est pour ça que nous pensons qu'aujourd'hui cette lutte contre le terrorisme doit être une lutte mondiale. C'est une lutte qui doit être faite comme aujourd'hui il est présent.
Oui, mais dans le même temps, j'ai envie de vous dire, monsieur le ministre,
aujourd'hui nous parlions.
À force de chercher le responsable ailleurs, est-ce que nous ne fuyons pas un peu nos responsabilités? Le mal est là aujourd'hui.
Oui, oui, mais nous ne pouvons pas aujourd'hui, nous, à notre niveau de responsabilité, nous contenter uniquement de décrire les faits. Mais nous devons aller chercher, disons, les causes les plus profondes. Nous disons aujourd'hui, ce que nous vivons en Afrique et partout au Niger concerne le monde entier. Il a été question aujourd'hui de se mobiliser par rapport, disons, à la question du climat, qui aujourd'hui n'a pas de frontières. Mais nous pensons que le terrorisme doit connaître, disons, le même traitement.
Un traitement mondial. J'ai envie de me tourner vers vous. Vous qui représentez un peu une ONG pour le civisme, pour qu'on revienne à l'explication, qu'est-ce qui peut expliquer cette démarche des jeunes? Est-ce que vous comprenez ces étudiants qui disent ces jeunes-là, c'est le désespoir, c'est la malgouvernance? Ou est-ce le déclin des valeurs dans la société nigérienne?
Je pense qu'on a à faire face à une thématique qui est assez complexe. D'abord, le terme en lui-même interroge, amène à se questionner, n'est-ce pas? Le qualificatif lui-même de terrorisme amène à se poser des questions, amène à s'interroger. Et en ce qui concerne, si on essaie de questionner quelles sont les causes profondes, on a à la fois des causes endogènes, n'est-ce pas, qui ont été ici invoquées et qui n'appartiennent pas à un seul régime, qui se sont succédées. Par exemple, prenons le cas de l'école. Lorsque nous faisions l'école, quand on était, quel type de citoyen l'école nigérienne fabrique
aujourd'hui?
La preuve, c'est qu'on parle de jeunesse. Il n'y a pas la jeunesse non lettrée qui est là. Pourtant, elle est concernée.
Elle est majoritaire.
Deuxième, donc on a des causes endogènes. Il y a des causes qui relèvent de la gouvernance. On a des éléments aussi qui relèvent de la fragilité de la famille. Parce que l'être humain, il est quoi? Il naît en famille, il reçoit ses premières éducations, après il évolue dans la société. Si la société, qui est le premier niveau, est fragilisée, n'est-ce pas? C'est un virus qu'on va inoculer et après il va aller exploser. Donc on a beaucoup de paramètres, on a les dimensions économiques. En ce qui concerne les aspects externes, on ne peut pas occulter la géopolitique, l'assassinat de Kadhafi, tous ces enjeux autour des matières premières, n'est-ce pas? La circulation des armes. Tenez-vous bien, le Niger ne fabrique pas des armes de guerre. Le Mali ne fabrique pas des armes de guerre. Qui les fabrique? Donc je pense, tout ça là, c'est des thématiques vraiment assez profondes. Je pense, si on veut en parler, il faut en parler de tout cela là. Parce que la religion, quelles que soient les religions, l'islam ou... Parce que nous travaillons sur ces questions-là. Que ce soit l'islam ou le christianisme, c'est des religions qui unissent les gens.
Absolument.
Maintenant, si un jeune, dans sa trajectoire, il est pris et que quelqu'un, il n'arrive pas à donner un sens à sa vie, quelqu'un le prend pour lui miroiter un certain nombre de choses, je pense que la faute n'est pas à la religion, mais la faute est à tous ces paliers de socialisation.
Oui, mais dans le même temps, on se dit, ces prêcheurs dont vous parlez sont parmi nous, sont dans les mosquées, dans nos villes, etc. Ceux qui prônent la division, ceux qui prônent la violence sont dans ces mosquées-là. Qu'est-ce qui fait que vous, pouvoir public, vous ne régissiez pas un peu cet environnement?
Je suis désolé d'avoir un autre point de vue, M. Foucault. Les prêcheurs qui enrôlent ces jeunes-là ne sont pas dans les mosquées. Ils ne sont pas actuellement au Niger, dans nos villes de Niamey.
Ils sont où alors?
C'est des gens, pour la plupart, quand vous les prenez, ils ne connaissent même pas le tiers du Coran. C'est des obscurantistes. c'est des gens qui n'ont rien à voir avec la religion, mais qui sont, comme il le dit, du fait de la géopolitique, du fait de certains intérêts économiques qui sont enrôlés eux-mêmes par d'autres considérations et par d'autres personnes. Et ces gens-là profitent d'un certain nombre de raisons internes à nos pays, d'un certain nombre de réalités pour enrôler les jeunes innocents, qui souvent, quand ils se rendent compte de l'erreur, reviennent et sont encadrés pour retrouver une vie normale. Je voudrais dire une chose.
Rapidement, oui.
On parle du terrorisme. Vous parlez du terrorisme, mais il faut aussi reconnaître une chose, M. Foka. Ce terrorisme-là, le Niger est l'un des pays qui est le plus mal encadré par ses foyers de terrorisme. Mais voilà que vous êtes en train d'organiser une séance en plein air dans la ville de Niamey.
Mais dans le même temps, il y a eu des actions terroristes.
Il y a eu des actions, mais dans une moindre mesure, on ne peut pas les occulter. On est tous dans un monde où vouloir les occulter, ce n'est pas normal, ce n'est pas réaliste. Je pense que moi, je le dirais
pas.
Et aucun gouvernant ne vous dira qu'on va occulter ces réalités. Il y a eu des attaques, mais il y a eu moins d'attaques au Niger que dans d'autres pays. Dans la capitale Niamey, aujourd'hui, nous sommes là à ciel ouvert. Donc, oui, moi, je pense que comme l'a dit Ider, M. Ider, il faut penser pas seulement aux conséquences, mais aux solutions, aux mesures.
On va parler de solutions dans la seconde partie du débat africain. Dans cette première partie, je voulais qu'on évoque les causes, les vraies causes de cet enrôlement des jeunes, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, il y a des jeunes qui sont enrôlés. Quand il vous dit qu'il ne s'agit pas de religion, que ceux-là, ce ne sont pas des prêcheurs que l'on rencontre ici. C'est vrai, Kadiatou ?
Aujourd'hui, on veut, coûte que coûte, associer le terrorisme à l'islam. Je voudrais souligner ici que le terrorisme n'a pas de religion. C'est une question de politique. On veut utiliser la religion souvent pour justifier, pour aussi diaboliser. Et c'est une façon encore de créer d'autres tensions. C'est une façon de créer encore d'autres tensions parce que c'est des frustrations encore qu'on crée vis-à-vis de ces croyants-là, des musulmans. Donc je pense que personnellement, le terrorisme n'a rien à voir avec l'islam.
Mais
l'islam,
quand vous voyez quelqu'un, qui entre dans une mosquée et qui assassine d'autres, est-ce que vous vous sentez de la même religion que lui ?
Lui, c'est parce qu'il a été préparé pour ça. Pas parce qu'il est musulman qu'il est rentré, mais parce qu'il a été préparé pour aller exploser dans la mosquée pour qu'on puisse associer l'islam à son acte. C'est deux choses différentes.
Mais on a envie de dire, les prêcheurs, les imams, pourquoi ne montent-ils pas au créneau pour dénoncer cette récupération de l'islam par ceux-là, M. Gao ?
Oui, moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire quand même quand on interroge la trajectoire de l'islam au Niger, on a un islam qui est assez pacifiste. Aujourd'hui, l'islam est sous contrôle au Niger. Quand vous prenez
vraiment?
Par exemple...
Vraiment?
Oui, je vais m'expliquer. Il est sous contrôle, pourquoi? Quand vous prenez par exemple tout ce qui est prêche au niveau des radios, nous-mêmes, SOS Civisme, avons travaillé avec le CSC pour mettre en place un dispositif de suivi à temps réel de toutes les émissions qu'ils peuvent documenter pendant 5 ans sur l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire quand quelqu'un fait une prêche quelque part dans une radio, c'est automatiquement enregistré et c'est stocké.
Oui, mais ça, c'est à la radio. Vu le nombre de mosquées qu'il y a ici, est-ce que vous surveillez ?
Deuxièmement, moi, je voulais parler aussi des CEDIR. Les CEDIR, c'est quoi ? C'est le comité de dialogue interreligieux. Nous, on n'a pas entendu ça. On a commencé à travailler sur ça depuis 2003. Pourquoi ? Parce qu'il y a un voisin au sud avec lequel on partage 1500 km de frontière.
Le voisin, le Mali ?
1500 km.
Ou le Nigeria, oui.
1500 km de frontière. Donc, comme on dit, on voit qu'il y a des tensions. Donc, nous, on a fait la prévention depuis 2003. Et ces comités-là, aujourd'hui, sont déclinés aussi bien au niveau région qu'au niveau commune. Et ils sont en train de travailler et de bien travailler.
Bien. Alors, le temps tourne vite. Monsieur le ministre, puisqu'on arrive au terme de la première partie de ce magazine, le temps tourne très, très vite. Dans la seconde partie, on va essayer de trouver des pistes, des solutions. On va voir comment en sortir, puisque finalement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut trouver une solution. On parle de mal gouvernance. On évoque les solutions dans la seconde partie du débat africain, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale, toujours ici en public, avec ce public qui ne s'est pas endormi et qui est là.
Le débat africain. Alain Foucault.
Bonjour Niamey, et merci d'être là. Nous sommes contents de vous avoir ici, dans ce stade, dans ce centre culturel Oumar Ouganda, ce dimanche.
Au début, on considérait que c'était l'affaire des étrangers venus d'un autre monde. Aujourd'hui, les nôtres aussi sont en première ligne. Qu'est-ce qui peut expliquer l'enrôlement de plus en plus important des jeunes Nigériens dans les mouvements terroristes? Quel regard porte la jeunesse sur ces organisations? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce débat africain au Centre culturel Oumar Ouganda de Niamey, devant un public venu nombreux, comme vous pouvez l'entendre. Plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, M. Assoumana Malamissa, le ministre de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale. Second invité de ce plateau, Abdourahman Seydou, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, membre du parti de l'opposition Modem Falumana. Notre troisième invité est Farouk Adamou Gao, membre fondateur de l'ONG SOS Civisme Niger. La jeunesse est représentée sur ce plateau, d'abord par mademoiselle Kadiatou Idiani, étudiante en licence de droit privé à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Et à ses côtés, Mamadou Ider Al-Gabit, le secrétaire général du comité de directeur de l'Union des scolaires nigériens. Alors, dans la première partie de ce magazine, on a évoqué un peu les causes. Le temps est court pour tous les énumérer. J'ai envie de dire, dans cette seconde, je souhaiterais des propositions, des solutions pour en sortir. On va commencer par Ider, qui représente les étudiants. Que faut-il faire pour en finir avec ces mouvements-là, pour en finir avec cette perte des jeunes?
Permettez-moi, Alain Foucault, de dire que déjà, dans la première partie, on a parlé de la géopolitique et des gens qui peuvent être manipulés. Aujourd'hui, quelqu'un qui est bien formé, qui a son diplôme, qui est bien inséré, n'est pas manipulable. Si aujourd'hui, on manipule les gens, c'est que quelque part, nous avons une politique éducative qui n'est pas appropriée. Et il est important de le souligner. La géopolitique ne peut pas exister qu'en Afrique ou en Afrique de l'Est notamment. La géopolitique est un concept mondial. Ce n'est pas chez nous seulement aujourd'hui on peut justifier le concept géopolitique à travers tout ce qui se passe. Par rapport aux solutions, pour répondre à votre question, je pense que la solution doit être transversale. Ce fléau aujourd'hui attaque ou frappe beaucoup de pays, notamment nous, de l'Afrique de l'Ouest. Les solutions qui sont apportées aujourd'hui, on a créé la force Barkhane, la force Serval, le G5 Sahel. Tous ces concepts ne répondent pas. Un G5 Sahel aujourd'hui qui est mis en place pour contrecarrer le tourisme de l'espace ouest-africain, ce G5 Sahel n'arrive pas à répondre évidemment à ces enjeux touristes parce que les conditions qui doivent être mises en place pour sa création n'ont pas été réunies.
Oui, mais dans le même temps, avant le G5 Sahel, il n'y avait rien.
Pourquoi
donc on
ne peut
pas dire que le G5 Sahel soit la cause aujourd'hui.
Pourquoi l'Algérie n'est pas présente au sein du G5 Sahel? Pourquoi la Mauritanie et le Tchad? Pourquoi la Mauritanie et le Tchad avaient clairement dit qu'ils sont membres du G5 Sahel, mais ils se limiteront au niveau de la frontière? Aujourd'hui, nous avons nos États. En Afrique de l'Est, nous avons des États qui sont mal gérés, avec un agglomérat de contre-valeurs, le chômage, la corruption, le népotisme, toutes les contre-valeurs, un mauvais système éducatif qui ne répond pas.
Alors, comme on est dans les solutions, que proposez-vous très concrètement?
Nous proposons qu'il y ait en tout cas une entente entre tous ces États qui sont frappés. Aujourd'hui, moi je ne peux pas comprendre la position du Tchad, la position de la Mauritanie et la position, le refus de l'Algérie à intégrer le G5 Sahel. Lorsque aujourd'hui les populations se sentent désolidarisées du fléau du tourisme et qu'ils pensent que c'est une affaire du président et que c'est au chef d'État de trouver la solution, il y a un problème. La première armée, M. Alain Foucault, qui doit s'opposer au tourisme, c'est d'abord la population. Et cette population doit se sentir liée à ses dirigeants.
Pourquoi la population n'est pas liée à...
Mais il y a un cordon ombilical qui est coupé aujourd'hui. Les populations ne se sentent plus liées à leurs dirigeants.
Monsieur le ministre, une réponse à cela?
Merci, M. Foucault. Je voudrais, si vous le permettez, rappeler, parce que vous aviez posé une question à laquelle je n'ai pas répondu. Pourquoi ne pas légiférer par rapport à la religion? On est en train de le faire. Il y a eu des réformes au niveau du ministère en charge de l'Intérieur où toute l'organisation interne a été revue. On a aussi pris une loi pour encadrer l'exercice du culte au niveau de la religion. Et tout cela, c'est pour non seulement encadrer les prêches, mais aussi pour former davantage les imams et puis les autres leaders religieux.
Prêcheurs. Donc, maintenant, revenons à sa question.
Maintenant, par rapport à la question des solutions, je reviens sur un aspect qu'il a dit et qui est fondamental.
S'il vous plaît, on va avancer parce que si on recule à tous les coups...
Il avait relevé que la crise de la famille est quelque chose d'évident. Effectivement, l'éducation, ce n'est pas simplement à l'école. On assiste à une sorte de dislocation de la famille, de la cellule familiale, et ça fait partie des réponses qu'on voudrait apporter à travers la renaissance culturelle. Autre chose, c'est que nous avons réformé le système de la formation professionnelle.
On va revenir, monsieur le ministre, soyons très concrets parce que le temps tourne vite. Là, il a mis le doigt sur quelque chose. Il a dit qu'il y a une rupture entre la population et les dirigeants. C'est pour cela que la population ne se sent pas solidaire de la lutte contre le terrorisme. Que répondez-vous à cela?
Comment dans un système démocratique au suffrage universel comme le nôtre, on peut parler de rupture entre la population et le peuple? Comment? C'est le peuple qui choisit. Et vous le savez, on n'a pas une démocratie parfaite, mais nous sommes dans un système démocratique où on organise régulièrement les élections, peu ou prou, qui sont transparentes et reconnues par la communauté internationale. Donc il y a de plus en plus, il y a de plus en plus une responsabilisation de la société. Maintenant, si des jeunes, si des gens, je ne parle pas simplement je parle pas des jeunes étudiants, s'il y a des jeunes qui estiment qu'ils s'excluent du système, ok, mais ne restez pas là à l'ombre dans les salons des politiciens en train de décider à la place de la plus grande majorité qui est là-bas. Nous sommes les fruits de la population, la vraie, le vrai peuple. Et vous êtes là à tergiverser. Non, il faut aller aux confins. Il y a des gens qui ont passé 10 ans sans aller chez eux parmi vous. Et je pense que ce n'est pas ça qu'il faut. Ce n'est pas en restant ici à Niamey que vous allez décider à la place de la population. Nous vous défions. On vous connaît un à un. On vous connaît un à un, ceux qui sont en train de crier là. Vous êtes des chasseurs pour les hommes politiques. Mais allez
Monsieur
chez vous.
À la réponse du jeune à l'instant, que dites-vous?
Mais je voudrais d'abord dire, je crois que nous ne sommes pas à un meeting politique. Gardons la sérénité.
Monsieur le ministre, il faut qu'on comprenne
oui,
ceux qui
non,
sont venus ici.
Gardons la sérénité. Nous sommes là pour faire des contributions pour que la population, à travers l'occasion qu'ils ont offerte, donc de mieux s'outiller, pour mieux apprécier et mieux participer à la gestion de cette situation qui n'est que déplorable.
Absolument.
Et moi, je pense que par rapport aux solutions, d'abord, dans notre environnement immédiat, je veux parler de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes un peu surpris et nous restons encore à nous interroger comment on peut envisager la résolution de ce problème de terrorisme dans notre zone sans que l'Algérie ne prenne une part, je disais, une part assez importante dans la résolution.
Mais pourquoi l'Algérie n'est pas dedans?
L'Algérie, parce que l'Algérie fait partie de la sphère dans laquelle évolue, disons, le terrorisme. Donc, si aujourd'hui il est indiqué que le Tchad ou la Mauritanie soient concernés, nous ne comprenons pas pourquoi l'Algérie ne serait pas concernée. Donc nous disons, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il est illusoire que de croire qu'on peut venir à bout du terrorisme sans associer l'Algérie dans la démarche. Maintenant, de l'autre côté, bien sûr, le terreau, c'est la pauvreté. Dans le même temps, il faut trouver des moyens pour exposer de moins en moins la jeunesse, disons, à répondre à l'appel, disons, du terrorisme.
Alors, je n'entends pas dire on va développer l'éducation, on va développer la culture, on va développer des choses qui peuvent donner de l'emploi aux jeunes. Comment ça s'explique, M. Gao?
Non, moi, ce que je voulais dire par rapport aux solutions.
Oui.
Je pense que le Niger, on est réputé, en tout cas, faire beaucoup de réflexions, des très bons documents. Je pense là où vraiment il y a des faiblesses, c'est dans la mise en œuvre et dans l'évaluation. C'est-à-dire, on a beaucoup d'idées par rapport à tout ce dont on vient de parcourir. Maintenant, dans la mise en œuvre, je pense que, en ce qui concerne l'action politique, il faut mettre le citoyen au centre et non les politiciens. C'est-à-dire, il faut que le politique sache que la démocratie ne s'arrête pas qu'aux élections. Il faut régler les problèmes des gens, les problèmes vitaux, éducation, santé, eau, assainissement. Il faut mettre ça au centre. Deuxièmement, il faut que le politique aussi soit un politique. Moi, je rêve d'un président au Niger qui est accessible à tous les citoyens. Je rêve qu'on puisse avoir des présidents, des ministres, des préfets, quand vous voulez les rencontrer, il n'y a aucun protocole. Parce qu'ils n'ont rien.
Mais le ministre est sur le plateau.
Non, parce qu'ils ont fait des réalisations, ils n'ont rien à craindre de vous. En ce qui concerne les problèmes sociaux, on a dit qu'il y a des problèmes sociaux. Donc, il va falloir aussi travailler sur tous ces aspects, que ce soit l'aspect social, politique et économique, c'est les dispositifs d'évaluation. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Rapidement.
Les politiques, quand elles sont mises en œuvre, qui les évalue? Qui estime que les résultats ont été atteints? Ce sont les médias. Les médias ne sont pas des professionnels de l'évaluation.
Bien. Alors, monsieur le ministre, rapidement, mais d'accord, sachez que d'accord. Vous êtes en avance dans le temps de parole.
Monsieur Foucault, je voudrais dire qu'il est impératif. On reconnaît tous qu'il y a des problèmes dans le système éducatif.
Oui.
On sait qu'on a des problèmes au niveau de la formation professionnelle. On sait qu'on a des problèmes au niveau de l'adéquation formation-emploi. On sait que toutes ces questions-là sont des préoccupations au niveau du système universitaire.
Vous voulez dire des priorités.
Par contre, ce que je veux qu'on dise, ce qu'on ne peut pas être un pays de 1 267 km², être entouré de la Libye qui n'existe pas, être entouré du Mali dans un pays où presque la moitié du pays est sous contrôle de ses forces obscures. On ne peut pas être entouré aussi du Nigeria où Boko Haram fait ses ravages, beaucoup plus au Nigeria certes que dans notre pays, et puis vivre comme nous sommes en train de vivre dans notre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement a donné une priorité à la sécurité. Les efforts qui sont faits pour armer l'armée. Je ne dis pas que tout est parfait, mais on a armé l'armée. On a recruté un certain nombre de jeunes qui sont en train de faire de leur mieux pour garantir notre sécurité. Et c'est ça qui justifie, comme je l'ai dit, que nous soyons ici aujourd'hui dans la ville de Niamey en train de nous organiser. Par contre, vouloir justifier pourquoi l'Algérie ou le Tchad n'est pas là, c'est ça le plus important. Quel effort nous faisons au Niger? Cet effort-là qu'on ne reconnaît pas au président de la République, il est au cœur de tous les succès qu'on est en train d'enregistrer.
Monsieur Seydou, en deux mots.
Moi, je ne dis pas qu'un effort n'est pas en train d'être fait. Mais moi, je ne suis pas là pour parler de ça. Nous sommes là pour faire une analyse globale de la situation. Nous disons ceci. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas envisager des solutions profondes et durables sans associer tous ceux qui, de manière directe, jouent un rôle et continuent de jouer un rôle. La question de la Libye, tout à l'heure, il en a parlé. Chacun sait. Disons, ce qui est arrivé à la Libye est une des conséquences, disons, de la situation que nous vivons. Donc, nous intéresser à la Libye, à l'Algérie...
Mais moi, j'ai envie de vous interrompre en disant, avant de regarder tout cela, qu'est-ce qui est fait à l'intérieur? Là, vous avez la jeunesse qui dit, occupez-vous d'abord de l'éducation et de la santé. Monsieur Hider disait, quand on est bien diplômé, on n'est pas manipulable. Qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer l'éducation, pour que tous aillent à l'école, pour qu'ils aient une chance dans la vie? J'ai envie de donner la parole à Kadiatou.
Merci. Pour aller aux propositions de solutions, il est important de savoir que sur la question de la sécurité, ni les Français, ni les Américains, ni les Chinois, encore moins les Russes, en tout cas la communauté internationale ne pourra pas venir régler notre problème au Niger. Il faudrait une mobilisation à l'interne, que les responsabilités soient situées, qu'on arrête tout le temps de vouloir accuser l'autre de nos malheurs. Il faudrait qu'à un certain moment, on aille au-delà de nos intérêts personnels. Le terrorisme n'est pas une affaire de l'opposition. Le terrorisme n'est pas une affaire de la majorité. Le terrorisme n'est pas une affaire de la société civile. Et ce n'est pas uniquement les jeunes. Le terrorisme, c'est une question qui intéresse la nation. C'est une question nationale. Il faudrait que tous ensemble, nous puissions regarder l'intérêt général du Niger.
Oui, mais ça se manifeste concrètement comment?
Et ainsi, pour ça, il faudrait que... Concernant au niveau des autorités, que l'éducation soit plus renforcée, l'éducation des jeunes filles, j'aimerais mettre l'accent sur la question du genre. Les femmes jouent un rôle très, très, très important dans l'insécurité et aussi les femmes doivent être actrices dans le processus de lutte contre le terrorisme. Et non seulement se contenter d'applaudir les autres, nous sommes actrices parce que nous hébergeons les terroristes, les attaques et autres, les femmes sont actrices. Les femmes sont complices. Donc, il faudrait aussi parler et travailler sur la question du genre. Arrêter seulement de réduire la femme au foyer, de continuer de frustrer les femmes parce qu'elles peuvent se sentir exclues et soutenir ces terroristes-là pour aussi affirmer leur leadership dans ce sens-là. Il faut investir dans l'autonomisation de la femme, la scolarisation de la jeune fille, l'éducation civique, j'insiste.
Le civisme, c'est ce qu'il évoque. Hider, une autre solution, oui. On a écouté Kadiatou, rapidement pour les jeunes.
Oui, autour de quoi la politique est construite? Nos hommes politiques, nos autorités, les dirigeants construisent leur politique autour de quoi? Quel est l'idéal autour duquel aujourd'hui les politiques publiques sont construites? C'est ça la question.
Oui, mais alors donnez-nous une réponse parce qu'on n'a pas tout le temps, après vous allez vous plaindre.
La réponse, je l'ai dit, il faut consolider ce cordon ombilical entre les dirigeants et les populations. Lorsque les différentes populations ne croient plus à leurs dirigeants, lorsqu'on pense que le terrorisme est le fruit d'un complot international, lorsqu'on suppose que nous sommes
manipulés
de l'autre bout du monde, lorsqu'on pense que nous sommes mis de côté, lorsqu'on pense que nous ne sommes pas considérés, il y a l'injustice sociale, il va de soi que nous soyons ouverts, nous soyons coopérants, à tout nous soyons manipulés. Et pour ce faire, il faut instaurer évidemment des régimes, des autorités, des dirigeants qui peuvent construire leur...
Oui, mais c'est vous qui choisissez ces dirigeants dans le même temps.
Nous, on choisit, mais vous connaissez les conditions...
C'est vous qui choisissez ces dirigeants. Donc vous êtes tout aussi responsable. Monsieur Gao?
Oui, moi je pense, je reviens autour de ça, tout ce que nous faisons, on doit mettre le citoyen au centre. Est-ce que les populations ont de l'eau? elles ont la sécurité alimentaire, elles ont la santé. C'est ça les indicateurs d'évaluation et non pas les élections. Donc, en fin de fin, pour moi, le type de régime n'est même pas important. C'est la satisfaction des problèmes de solutions.
Là, vous disiez tout à l'heure qu'on a l'art de faire des grands documents
oui.
où il ne sort rien de bien concret. Moi, je souhaitais que l'on me dise, on va, par exemple, commencer à aller éduquer dans les campagnes, aller voir ces jeunes qui sont enrôlés. Or, j'entends pas ça ni de l'opposition, ni du pouvoir. Je vous ai pas entendu dire ça, monsieur le ministre.
Vous me donnez la parole pour que je parle de ça. Vous savez...
Rapidement, parce que vous monopolisez beaucoup
dit,
la parole.
Ce qu'il dit par rapport aux documents, effectivement, ça a fait que beaucoup de jeunes sont découragés et ne découvrent pas les documents. Mais nous avons fait une proposition. La Renaissance culturelle là en question, nous avons mis le document sur Facebook. Nous avons échangé, nous avons parcouru les régions pour impliquer les citoyens, parce que c'est le citoyen qui est au cœur du programme de la Renaissance culturelle. Et nous voudrions qu'on mette l'accent
sur... Mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi, puisque quand on entend
ce n'est pas question de réussir, parce que ce n'est pas une course de vitesse. Mmh. C'est une course de montre. On a une déstructuration des mentalités qui ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est cette déstructuration que nous voudrons recorriger pour que nous puissions avoir des citoyens qui placent l'intérêt général au centre de leur action. Mmh. Et que les gouvernants aussi placent l'intérêt général au centre de leur action. Toutes ces questions sur la corruption, toutes ces questions sur la pauvreté, toutes ces questions sur le manque de civisme sont traitées et des propositions sont faites. Mmh. Et malheureusement, même le ministre qui est à côté de moi, si vous lui posez la question, il n'a jamais osé, même pour bien critiquer, oser lire ce document. Ils sont nombreux ici. Venez prendre des exemplaires. Vous critiquez.
Mais nous regrettons.
Excusez-moi. Je me prête à vous. Je me prête à vous sur cette même place. Je vais distribuer autant d'exemplaires que ce... On va venir ici faire le débat sur la Renaissance culturelle.
Alors,
je suis prêt à le
prendre.
Je voudrais quand même dire au ministre que moi, j'ai un parti politique qui a aussi une politique culturelle qui n'a rien à envier. Et disons,
donc là, on retourne dans la politique.
Pour le moment, c'est la nôtre qui est mise en œuvre. Et en tant que citoyen, ça vous concerne.
S'il vous plaît. Non, là, je vais vous interrompre parce que nous arrivons au terme de l'émission et j'ai envie de poser la question aux jeunes, puisque c'était leur émission, au-delà de toutes les causes que vous avez évoquées, de toutes les raisons que vous avez évoquées. Lorsque vous regardez vos jeunes frères se faire sauter dans les mosquées, qu'avez-vous envie de leur dire en attendant que l'on trouve les solutions que vous évoquez? Kadiatou, qu'avez-vous envie de dire à ces jeunes, qu'ils sont dans le faux ou le vrai?
Ce que j'ai envie de dire à ces jeunes, c'est de ne pas se laisser manipuler, d'être capable de s'assumer en tant que jeune. Parce que nous avons aussi notre part de responsabilité dans ça. Il ne faudrait pas qu'on accuse l'autre. Il faudrait que nous puissions garder nos valeurs, notre propre culture dans notre
société. Alors, puisque vous parlez de valeurs, parce que nous arrivons au terme de cette émission, j'ai envie que l'on se réunisse autour d'une valeur qui réunit tous les Nigériens ici divisés. Tous ces Nigériens du MNSD, du PNDS, de l'ensemble. Est-ce que vous voulez bien vous lever et on va chanter l'hymne qui réunit tous les Nigériens de tous les bords?
De notre liberté nouvelle, évitons les vaines querelles afin d'épargner notre sang et que les glorieux accents de notre race sans tutelle s'élèvent d'un même élan jusqu'à ce ciel éblouissant. Où veille son âme éternelle, qui verra le pays plus grand. Que vous, Niger, que notre œuvre féconde.
Je voudrais que nous terminions cette émission du débat africain sur cet hymne de rassemblement d'union. Je voudrais terminer en remerciant la direction du centre culturel Oumar Ouganda pour son accueil et sa patience, mais également la SNS, qui est la compagnie privée de sécurité, qui a veillé sur cette rencontre. Je pense également à MSA, Média Service Audiovisuel, et Richard Ifono, qui ont assuré la technique. Remerciements également à notre correspondant Moussa Kaka pour son accompagnement. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, sur Radio France Internationale. À bientôt, Niamey! L'atelier des